bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale de vacances, c'est-à-dire bande originale sans Nagui, mais avec Tom Villard.
Bonjour.
Frédéric Segrist également, dans la dernière demi-heure, Tanguy Pastureau viendra maltraiter l'info, et bien entendu, Leïla Kadour Bounali.
Bonjour à tous, salut Daniel Morin, et notre invité aujourd'hui est Izia Higelin. Bonjour Izia.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au micro de France Inter dans la bande originale, on vous reçoit pour... une actu incroyable, deux actus en même temps finalement, la sortie du film Debout sur la montagne qui sera en salle mercredi prochain, un film de Sébastien Bedbeder et puis aussi un très très bel album Citadelle qui m'a enchantée, que j'invite tout le monde à écouter et puis surtout j'ai hâte de vous voir sur scène parce que c'est toujours un événement de vous voir sur scène Izia.
Ah oui, merci.
Comment ça va ce matin?
Ça va.
Ouais.
Ça va mieux?
Pas trop.
Petite fatigue.
Bah merci d'être venue. Hein,
non,
parce
mais
que
en fait, j'ai fait une insomnie. Enfin, ce qu'on a vraiment une vraie insomnie, c'est-à-dire zéro dodo. Et voilà. Donc, je vais peut-être tenir des propos extrêmement incohérents.
Ah bah nous aussi. Nous aussi.
Nos auditeurs sont habitués.
C'est ça,
voilà. Et oui. Donc, voilà, je préviens tout le monde. Désolée.
C'est quoi l'insomnie? Elle est due à quoi? On sait. C'est comme ça que ça vous tourne sur le nez?
Franchement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé.
C'est quoi? C'est la sortie du film, de l'album?
Oui, c'est ça. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Dixit, la meuf qui sort 40 minutes en même temps. Ouais. Méga stress de sa vie.
C'est ça. C'est vrai, méga stress?
Non. Enfin, vrai, ouais. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. Et puis, quand on est en insomnie, après, on pense à des trucs chiants. On en veut à plein de monde. Vous savez ce que c'est?
On va vous mettre...
insomnie, on en veut aux gens.
Oui, c'est ça. Voilà,
vous nous détestez ce matin, en fait.
Non, mais pas du tout. Alors, vraiment, tout le monde sauf vous. Bien sûr.
Bon, on va y aller doucement, tranquillement. On est bienveillant autour de cette table. On va commencer, tiens, par une interro pour vérifier si mes petits copains ont bien travaillé pendant qu'Izia ne dormait pas, voir un petit peu s'il y avait un petit peu de boulot. Allez, c'est parti.
Vas-y,
première
shoot.
Question. Savez-vous d'où vient le prénom Izia?
C'est grec?
Non.
Non.
D'un livre?
Non plus.
Non. D'une chanson?
Non. J'adore, je vous êtes pas des masses, mais ouais, je peux pas vous aider.
Est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est un pays qu'on recherche ou c'est. Je sais pas.
Ça vient d'un pays, oui. Forcément.
Oui. Par rapport à la France, plutôt à l'est ou à l'ouest?
Bonne question.
C'est un pays
plutôt
qui
à l'est.
À la communauté européenne.
Si
la... je sais pas,
plutôt
la Roumanie.
Ouais, mais ça vous aidera pas à des masses. Enfin, si. Faut trouver
non.
le pays. Faut...
Oh.
Ouais, c'est compliqué.
C'est le pays.
Non, mais de toute façon, là, s'ils savent pas, ils savent pas.
Ouais,
dire,
ils savent pas.
Ça commence fort.
Ils vont pas.
Eh ben voilà, boum. Ils y a expliqué, s'il vous plaît.
Nagui, il est moins dur quand même.
Ouais, je sais, mais bon, là, je peux pas vraiment vous aider sur cette question.
Ça vient d'un prénom géorgien qui s'appelle Mzia, en fait ça veut dire l'ensoleillé. Voilà, M'Zia, et en fait après au dernier moment ma mère a changé, a mis un i, et donc c'est un prénom inventé.
Voilà, c'est une invention.
Tu vois, t'aurais laissé 10 secondes de plus, j'avais la réponse.
On avait toutes les chances de trouver.
C'est fou, hein.
On est vraiment là, on est vraiment débiles.
On poursuit.
Mais s'il te plaît.
Qu'est-ce que Iggy Pop lui a écrit sur un vieux sac en plastique?
Où est mon t-shirt?
Rends-moi mes fringues.
Non,
c'est pas ça.
Bravo.
Plus simple. Un numéro de téléphone.
Absolument, Fred. Ouais, bien vu. Ouais. Ça, c'est un peu la classe internationale.
Ouais.
Ouais, comment ça? Alors, les conditions, racontez-nous.
Non, j'avais chanté à la musicale avec lui. On avait fait un duo. Il faisait une émission spéciale parce qu'il a quand même des liens assez forts avec la France. Il faisait une émission spéciale où il faisait des duos avec plusieurs artistes français. Et moi, je venais juste de sortir mon disque, je crois. J'étais vraiment... Et Canal m'a contactée. Je me suis retrouvée à faire une chanson Nice to be Dead de son dernier album avec lui. Et c'était vraiment un moment génial. Il avait vraiment pris son pied, et moi aussi. Et puis à la fin de l'émission, voilà, il m'avait laissé son numéro de téléphone.
Et qu'est-ce qu'on en fait d'un numéro comme ça?
Alors honnêtement, c'est en marqueur sur un plastique. Alors je crois qu'il s'est effacé avec le temps. Je sais même plus où il est, honnêtement. C'est un peu la honte. Mais il me l'avait tendu en me disant « If you ever need me, call me ». Je trouvais ça vraiment stylé.
Et vous l'avez jamais vraiment appelé?
Non,
donc,
j'ai jamais besoin de lui. Non.
Ouais,
non,
c'est vrai. Qui a besoin d'Iggy Pop?
Mais ouais, merci. C'est bien ça, Lydia. C'est vrai, on a besoin d'Iggy Pop. Allez, on continue. Il y a un groupe générationnel. Vraiment, qui a beaucoup touché Izia.
Les To Be Free.
Bravo, dis donc, incroyable.
Mais non,
toi.
Mais alors, déjà, je vais rétablir l'histoire tout de suite parce que, non, mais je veux dire, c'est un groupe qui a touché
toutes les petites filles de 5 ans.
C'est pour ça que je dis que c'est
générationnel.
Voilà.
Musicalement.
Ça m'a pas ouvert les portes vers. Oui, musicalement. Ah oui, j'avais pas compris. Voilà, par contre, je vais avoir un peu de retard sur vous, sur les blagues, du coup, ça va être pénible.
Non, mais moi aussi, et pourtant, j'ai dormi, donc vous inquiétez pas. Non, mais je comprends. C'est complètement générationnel. Moi, j'avoue régulièrement mon amour pour Camaro, par exemple.
Oui.
Voilà, To Be Treated. Mais alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce boy band?
Toi, t'étais jusqu'à vivre avec.
Oui, moi.
Qu'est-ce qui m'a plu? Bah, rien. C'était des garçons torse nu qui chantaient des chansons catchy. Ouais. Je découvrais un peu ma sensualité. J'étais un peu là. Putain, il est pas mal Philippe. Voilà quoi.
Ah,
je crois
Philippe.
Que ça s'arrêtait là.
Voilà. Ça m'étonne pas. On l'enchaîne. De quel accessoire Isia aurait besoin sur scène? Si vous l'avez déjà vu sur scène, ça peut être évident comme réponse.
Une ventoline?
C'est pas loin. En effet,
c'est vrai, en plus, je suis asthmatique.
Voilà.
C'est vrai, j'ai toujours ma ventoline.
Ouais, mais là, c'est aurait besoin.
Aurait besoin.
Et ouais, ça veut dire que vous ne l'avez pas sur scène, mais vraiment, quand on vous
peut-être
voit, on se dit.
Une serviette?
J'imagine qu'elle a ça à disposition. Non, c'est lié vraiment à la danse, à sa façon de se donner sur scène. C'est un truc de sportif?
Un truc de sportif.
Ah, Daniel.
Je retiens Daniel.
Une casquette. Fred, c'est plutôt toi, alors, du coup, là, maintenant.
Justement, des boissons énergétiques.
Non. Est-ce que vous voyez Isia ou pas?
Non.
Ah, ouais, d'accord.
C'est un vêtement?
C'est un accessoire. Donc, vêtement, non. On le met pas comme ça pour sortir.
Non, je sais pas.
Non? Ça, c'est une question de protection d'une partie du corps.
Ah, des genouillères.
Bonne réponse d'Isia.
Elle se connaît super bien.
Je fais quand même nettement moins de passages au sol.
Qu'est-ce qui s'est passé
qu'avant.
Pourquoi donc?
Oh, la maturité. Non, mais honnêtement, je me blesse quand même beaucoup moins qu'avant.
On est un peu plus comme, sur scène, un peu plus douce.
Mais alors, encore cette nuit, pendant mon insomnie, mon genou droit me lance et c'est vraiment pénible. Et franchement, je crois que d'avoir chanté pendant plus de 10 ans avec des talons de 15 cm, enfin plus de 10 ans, un peu moins, mais avec des talons de 15 cm sur scène en sautant partout, franchement, j'ai dû me faire super mal.
Et moi, j'ai eu le même problème.
Vraiment.
C'est...
Oui, c'est ça.
Allez, une petite dernière. Savez-vous où Isia a rangé ses victoires de la musique?
Dans les toilettes.
Vous en avez combien, Isia, de victoires?
Il y en a trois.
Trois victoires.
Frigo, toilette.
Alors, j'ai noté ça quelque part.
Non, frigo, non, toilette non plus.
Sur sa com.
Pas chez elle.
Pardon, j'ai pas entendu.
Non, c'était pas chez elle, demandez
pas chez elle.
Si, c'est chez Isia, chez vous. Ouais,
alors, si c'est chez elle.
Bon, pas dans les toilettes, dans la cheminée.
C'est bien agencé, c'est-à-dire que c'est sur son parcours un peu.
Ah, dans le couloir.
Pas loin, ouais.
Dans l'entrée.
Sur le palier.
Bon, ils trouveront pas, je pense. Bas de votre escalier. En bas de votre escalier. Vous avez dit ça dans une interview.
Ah ben, alors je sais pas, quelqu'un les a changé de place depuis. qu'elles sont plus là.
Vous disiez que au départ, quand vous aviez les deux victoires, elles étaient au bas de l'escalier, comme ça vous descendiez le matin, vous les voyiez.
J'ai dit ça.
Ouais, vous leur faisiez un petit coucou en disant.
Ah alors.
C'est pour ça que j'ai pris cette question, parce que je trouvais que l'histoire était drôle, quoi.
Non, mais en fait, je pense que elles ont atterri là au début. Je pense que quand je les ai eues. Je les ai mis un peu là et puis après je les ai rangés dans un endroit un peu moins égotique.
Elles sont où maintenant ces trois victoires?
Elles sont sur ma bibliothèque.
Ouais, tout simplement.
Voilà, à côté des petits disques d'or. Enfin, rien de très original. Enfin,
vous les regardez, vous leur parlez de temps en temps ou pas? Ou c'est devenu un accessoire? Enfin, c'est devenu un élément du décor?
Non, c'est un accessoire. Mais je suis assez fière parce qu'elles sont un peu vintage. C'est les vieux modèles, les nouveaux, les V là en vert. Ils sont vachement moins jolis, donc je suis contente d'avoir eu celle-là.
Il y en a une des trois que vous préférez?
Je pense que c'est peut-être mon premier album rock.
Ouais.
Parce qu'après, j'ai eu l'album rock pour Summer Trouble, mais je pense que c'est pour le premier album rock parce que vraiment, encore la révélation scène, j'avais peut-être un micro-doute.
Ouais.
Où je me disais, bon, peut-être celle-là, je peux l'avoir quand même, tu vois. Mais l'album rock, sur mon premier album, j'avais Indochine en face et tout, j'y croyais vraiment pas, mais zéro, quoi.
Non, c'était pas leur meilleure année. Hein.
Non, mais j'y croyais vraiment pas, quoi. Et quand on a dit mon prénom, enfin vraiment, j'étais carrément en train de discuter avec quelqu'un en mode, non, mais de toute façon, on va aller
et
faire autre chose.
Et qui a annoncé votre prénom, vous vous souvenez?
Oh non, je me rappelle pas.
Non, même pas. C'est vrai que vous avez complètement oublié sur scène qui était là pour vous tendre la victoire.
Il y a une chance sur deux pour que ce soit Michel Drucker, non?
Ouais, ou Nagui.
C'est pareil, c'est la même personne.
Je me rappelle pas mal.
malheureusement. Allez, une petite dernière, j'ai menti. Une petite dernière, elle va nous mener directement au film. Pourquoi est-ce que cela aurait été très gênant qu'Isia n'accepte pas de jouer dans le film dont on va parler aujourd'hui, à savoir Debout sur la montagne?
Parce que le réalisateur voulait personne d'autre.
Absolument, bravo Daniel. Il a écrit le rôle rien que pour vous, Isia. Vous le saviez ça? C'est ce qu'il déclare. En tout cas, il l'avait écrit que pensant à vous, simplement.
Ah oui, en pensant à moi, oui. Ouais. Rien que pour moi, après, ça c'est un peu ultime quand même, mais en pensant à moi, ça oui, il me l'a dit qu'il avait pensé à moi. Donc ça, c'était vraiment très, très touchant.
C'est une première qu'on pense rien qu'à vous pour un rôle à ce point-là, parce que là, il dit quand même dans l'interview, pardon, qu'il aurait été plus qu'embêté si vous aviez refusé. Parce que c'est pas juste, bon, ça pourrait être elle, ça serait vraiment très bien que ce soit elle.
Là, non, je pense pas. Après, Patrick Mills, sur le premier film, justement, quand j'avais dit putain 25 fois, quand j'avais gagné mes victoires de la musique, c'est vrai que quand il m'a vu à la télé, il a été touché, voilà. Et puis, quand il a poursuivi l'écriture de son scénario, après, il s'était plus inspiré de moi, je crois, mais à ce point, comme ça, non, je savais pas.
Alors, venons-en à ce film qui sort la semaine prochaine, Debout sur la montagne, de Sébastien Betbeder. Alors, pour raconter un peu l'histoire, parce que c'est quand même un film un peu particulier, c'est l'histoire de trois jeunes gens qui se sont quittés il y a une quinzaine d'années, ils vivaient dans le même village, et à l'occasion d'un enterrement, ils sont de retour, ils se retrouvent. Parce qu'on est à peu près là sur les premières scènes du film, sans trop dévoiler, parce que c'est un film quand même assez onirique aussi, par endroits, qui nous amène dans d'autres univers.
Ah bah, c'est un film complètement onirique, complètement poétique. Et oui, c'est l'histoire de trois personnes qui se retrouvent, en effet, après de nombreuses années, dans leur village d'enfance. Donc c'est un film sur et puis c'est trois âmes un peu perdues, peu paumées. Qui se retrouvent là où sont censées être leurs racines, mais bon, elles y sont plus vraiment, c'est compliqué, donc ils se rattachent un peu comme ils peuvent aux branches des autres gens du village, de leur famille, des gens qu'ils ont perdu de vue, et d'eux-mêmes aussi. Ouais.
Et puis on est dans un endroit aussi particulier, on est vraiment dans les montagnes, donc on a l'impression aussi que c'est aussi le lieu de tous les possibles, finalement, de tous les rêves, de toutes les hallucinations, même parfois. Alors il faut quand même parler un petit peu du casting, à vos côtés, Isia Higelin, vous partagez l'affiche, puisque c'est vraiment trois rôles principaux, avec Bastien Bouillon, et puis avec William Lebgill, qui incarne un personnage qui est interné régulièrement, en fait, c'est qui, de temps en temps, ou assez régulièrement, a des sortes de visions d'individus particuliers qui lui parlent la nuit, quoi. Il y a un truc de cet ordre-là.
Tout à fait. Il y a même un peu, à un moment, une histoire de météorite. Il y a même des moments où il neige, et puis après, il neige plus. Il y a des gens qui vivent dans des petits chalets, enfin, dans des petits refuges au fin fond d'un plateau depuis des années. Enfin, voilà, il y a une pléiade de personnages complètement barré, en même temps super touchant, c'est très onirique, ouais. Et puis en fait, il y a plein de moments où ça l'a été un peu malgré nous.
C'est-à-dire?
Mais par exemple, il a fait très beau, mais vraiment un temps sublime. On était à 1600 mètres d'altitude, au milieu des montagnes. C'était le rêve.
Vous avez tourné où dans les montagnes?
On a tourné dans un village qui s'appelle Villard-Raymond. Et j'embrasse d'ailleurs tous les gens de Villard-Raymond parce que c'était vraiment génial.
Ils sont trois.
Détrompez-vous, ils sont neuf.
Ils sont produits. Voilà.
Et c'était vraiment génial parce qu'on vivait dans le village. On avait chacun une maison, enfin c'était vraiment, enfin voilà, de là à dire cette grande phrase un peu cliché de la fiction se mêler à la réalité, mais c'était quand même, mais c'était vraiment pas loin de ça du tout. Et c'est vrai qu'à un moment il faisait très 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 beau, et du jour au lendemain, et donc on avait tourné plein de scènes déjà, et puis du jour au lendemain, bah 1600 mètres d'altitude au mois d'octobre, bah t'as genre 30 cm de neige qui tombe. Et donc moi, mon personnage est en jupe pendant tout le film.
C'est ça, ouais. J'ai compati à certains moments.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, à un moment,
mais carrément, c'est même une mini jupe, hein, on peut le dire.
Oui, c'est même une culotte presque. Carrément, il y a des moments où je me demandais même si j'avais pas oublié de mettre mon fut.
C'est un argument donc pour aller voir le film.
Non, mais voilà. Et puis, et du coup, c'est vrai que, en fait, on a dû faire avec la neige aussi beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que le côté très, très poétique du film, on était là. Bon, de toute façon, on est plus là. Après, il y a un mec qui voit des lamas, il y en a un autre qui fait des trucs. Donc, pourquoi pas de la neige du jour au lendemain? Et en fait, moi, je trouve que du coup, ça rajoute beaucoup de poésie à cette scène où elle part voir sa mère pour confronter justement son passé. Et du coup, tout à coup, il neige et elle est en mini-jupe dans la neige. Et je trouve ça très joli.
Voilà. Avec un très beau casting. Donc, je rappelle William Lebguil, Bastien Bouillon, mais aussi Jérémy Elkaïm, Esteban, qui est de la partie, qui donne aussi leur trait à des personnages parfois inquiétants, parfois, là encore, étonnants. Je pense notamment au personnage qui est une ancienne star de la télé-réalité.
Ouais.
Parce que c'est aussi cette question, c'est revenir sur les lieux de son enfance, c'est recroiser les autres, c'est faire un peu le bilan de sa vie et de se demander où on en est. Et d'arriver en masquant peut-être qu'on a une vie sentimentale un peu compliquée, ce qui est le cas de votre personnage. Et lui, de se dire qu'il a été un moment vu à la télé, voilà, comme on dit, et qu'aujourd'hui, il est dans une dépression totale, en fait. Ils sont un peu tous dépressifs.
Et pour lui, c'était le Graal, en plus, d'avoir été reconnu comme ça.
Bah oui, oui. Oui, ils sont un peu tous... Enfin, en tout cas, c'est vrai que le moment où ils arrivent au village, c'est pas la fête.
Ouais.
Tout le monde n'est pas au...
c'est le mot.
Tout le monde n'est pas la meilleure version de soi-même.
Non, c'est ça.
Et chacun, c'est vrai, essaye de l'atteindre. Tout le monde fait un chemin.
Ouais.
Tout le monde s'aide un peu comme ça, grâce à ce cœur, à ce village.
Avec des allers-retours entre l'âge adulte auquel on assiste, forcément, et puis des retours comme ça dans le passé où on voit ces trois gamins qui étaient inséparables à l'époque et qui arpentent les ruelles du village. Et on va là aussi de découverte en découverte. On explique aussi le lien si fort qui les a unis. Il y a un événement qui s'est produit dans le passé et qui concerne le personnage de Jérémy Elkaïm, on n'en dira pas plus, mais qui vient impacter aussi leur vision de l'amour. En tout cas, l'un d'entre eux, ces personnages, se dire que l'amour, ça peut être dangereux.
C'est joli,
ça, comme idée.
Ouais, c'est joli, mais c'est un très joli film. De toute façon, Sébastien, il a vraiment des très belles visions et c'est vraiment quelqu'un de très doux et très poète, quoi. Et il nous a amené dans cette direction-là.
C'est ce qui vous a plu en lisant le scénario?
Parce que moi, j'ai adoré le scénario.
Lire le scénario, ça doit être un peu perturbant, parce que entre le texte et tout d'un coup le résultat, j'imagine qu'il faut vraiment faire confiance à l'imagination du metteur en scène.
Oui. Mais moi, je sais même pas encore trop lire des scénarios parfois, me projeter et tout. Là, je sais juste que j'ai vraiment adoré lire ce scénario et j'ai adoré comment c'était écrit, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé le scénario. C'est ce qui vraiment m'a poussée à faire le film. Et après, ma rencontre avec Sébastien aussi a été décisive parce qu'elle était d'une douceur et d'une bienveillance. Voilà. Et moi, je savais que j'allais sortir quand même d'une période où je venais de donner la vie. Enfin, je suis partie en tournage 2 mois après la naissance de mon petit. Et du coup, j'avais besoin de savoir qu'on allait être dans quelque chose d'aimant, de bienveillant. Et ça a été juste le bonheur.
Ouais, voilà. Et puis c'est en lien direct avec l'enfance, c'est aussi, j'imagine, c'est pas anodin non plus de partir sur un projet comme ça.
Ouais, mais c'était génial parce que voilà, moi j'avais l'impression aussi pendant un peu la grossesse d'être un peu parfois enfermée dans mon corps, mais si au bout d'un moment on est un peu emprisonné dans un truc, et puis là tout à coup 2 mois plus tard, après je me retrouve en haut des montagnes avec toute cette équipe, avec mon petit nourrisson et tout ça, à tourner ce projet, et c'était très exaltant.
Ouais, est-ce que votre petit, comme vous l'appelez, lui ferait vivre le cinéma comme le fait vivre le prêtre qui est dans le village en montrant des films d'horreur absolument insoutenables aux enfants en bas âge?
Alors, s'il veut, mais ce sera sans moi, parce que moi, je déteste ça. il fera ce qu'il veut.
En tout cas, restez bien tranquille, Isia. Tout va bien se passer, parce que là, il y a Tom qui va faire tout le boulot pour vous, donc vous allez pouvoir faire une micro-sieste même, éventuellement. Mais
si
je
vous
pense
voulez rattraper,
pas,
oui.
Il va vous faire rire.
Non, mais ça va, je me réveille, là. Je reviens.
Les questions et les réponses.
Il fait les questions et il fait les réponses.
Allez,
Tom Villa.
Isia Higelin, merci de revenir dans la bande originale.
C'est un endroit qui est hyper important pour moi, où je vais le plus souvent possible.
Oh, c'est gentil. Et en même temps, ici, dans la maison de la radio, tout le monde vous aime. C'est unanime. Tout le monde vous adore. Voilà.
Arrête. Les histoires, les trucs, là, arrête.
De quoi, ça va pas ou quoi? Franchement, je mens pas. J'ai compté, on est quoi? On est 5000 personnes qui travaillent à la maison de la radio. Je crois qu'il y a 5000 personnes qui vous aiment.
Donc... T'as pas des trucs sur lesquels t'aurais peut-être un peu exagéré?
Bon, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être qu'autour de cette table, il y a des gens qui vous aiment moins, mais je peux pas dire qui, parce que comme il co-anime, il est chauve et barbu, ça se fait pas de le balancer, mais voilà, c'est dit. Vous préférez quand je suis honnête, peut-être?
Je suis super contente.
Et ben voilà. Alors, en revanche, Isia, moi, je vous suis depuis vos premiers albums, et dès le début, il y avait de la guitare électrique à fond sur scène. Isia, Nadia, c'était une énergie de malade.
Je me sens super rock.
Mais oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ressent tout de suite quand on vous voit. Vous êtes le genre de fille qui a envie de...
De tout envoyer chier. De...
Exactement, voilà. Et puis tous ceux qui disent qu'avec l'arrivée d'un enfant, vous êtes assagi, que vos albums sont plus pop, vous leur répondez quoi?
L'insulte et la violence.
Exactement, voilà, ça c'est Izia, ça c'est rock'n'roll. Concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui qui est encore vachement rock'n'roll?
Je suis un peu de claquette.
Non, mais des trucs un peu plus trash, zéro limite, comme quand vous étiez ado.
Du yoga.
Ok, bon, on va pas se mentir, ça a l'air moins rock qu'il y a quelques années. Au niveau de la musique que vous écoutez, c'est toujours grosse guitare électrique, des mecs qui pètent tout sur scène. C'est qui votre rockstar du moment?
Francis Cabrel.
Non, Izia, je vous reconnais plus du tout, pardon. Hein,
j'ai écouté les Tout Bébés quand j'avais 7 ans.
Oui, mais c'est, on en a parlé tout à l'heure. Mais par rapport à Francis Cabrel, c'est sûr que c'est un peu punk. Mais Izia, pardon de vous le dire, mais je crois qu'il faut se...
Il faut se bouger le cul.
Oui, voilà, je crois. Bon, après, c'est normal de vieillir, de devenir plus sage. Pour rester rock, il faut...
Boire de la bière.
Oui, mais pas que ça, je suis désolé. Mais Izia, vous êtes moins rock. Voilà, vous
boire de la bière.
Non, oui, ça vous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que vous êtes moins rock, comment dire.
Oui, ça marche, fais un effort.
Ok, bon, alors, je vous laisse une dernière chance. Si je vous dis de faire de quelque chose de complètement rock'n'roll, un truc de malade dont on se souviendra toute votre vie, c'est quoi? On va où?
Peut-être chez Jean-François Copé, comme ça je lui défonce son appart.
Et voilà, ça c'est rock'n'roll. Allez, bonne émission.
Merci Tom Dula.
Quelle drôle d'idée, Izia. Alors, on est toujours ensemble pour Debout sur la montagne, ce film qui sort non pas ce mercredi, mais mercredi prochain. Et puis, je voulais absolument parler de ce très très bel album, Izia, Citadelle, qui m'a vraiment enchantée. 12 titres, on n'a pas envie de vous quitter. Alors, on a parlé d'Izia, la rockeuse. On n'est quand même pas très éloigné. Pour moi, il y a des morceaux qui donnent une vraie envie de danser, de bouger avec vous. Le single que vous allez nous interpréter tout à l'heure, c'est Trop vite et j'adore ce titre. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite. Sur cet album aussi, Citadelle, forcément, on fait référence à Calvi.
Tu nous as vu chanter dans tes pierres, célébrer la mer et l'amour. À jamais, ma citadelle. Quelle vie, irrésistible auprès de toi.
Quelle vie à l'honneur. On sait que cette ville, elle est très très importante pour vous, Izia. On parlait justement de l'enfance avec le film Debout sur la montagne. Calvi, c'est un peu toute la peinture qui vous environne, j'ai la sensation. Et ça donne le nom Citadelle aussi, quelque part, à cet album. Mm-hmm.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Rien, non, mais c'est une ville qui est très très importante pour moi. C'est là où est né l'album avec Bastien Burger. Ouais. On était à Calvi et c'est un peu là où on a décidé de se dire, enfin, qu'on s'est dit qu'on allait faire un disque, quoi, qu'on allait en tout cas commencer à faire des chansons.
Ouais.
Donc ça a été le nid de la création du disque, au-delà d'être aussi le nid de ce que j'ai pu être, de mes souvenirs, de mon adolescence, de ma construction.
C'est Tao, il faut parler de ces lieux aussi où vous avez grandi, où même vous êtes né musicalement, j'ai envie de dire.
Oui, c'est là où j'ai commencé à chanter, même au piano bar avec le frère de mon parrain, Tao Bi. On chantait, ouais. Voilà, des petites chansons ensemble.
Et puis, alors, des titres, forcément, où on pense à des collaborations qui sont très belles. Il y a un titre avec Dominica. Comment est née la collaboration avec Dominica, Izia?
Bah en fait j'ai composé cette chanson et solé à la guitare. On était à Calvi avec Bastien et je compose cette chanson, mais vraiment en mode rock, tout en croche, très très linéaire, et je fais cette petite mélodie là avec le texte déjà d'un coup, quoi. Et solé, j'ai peur de devenir fou, machin. Et puis Bastien me dit, mais c'est fou cette ligne mélodique, ouais. On dirait vraiment du Dominica, quoi.
C'est vrai, ouais.
Et j'ai dit, putain, mais c'est clair, on dirait trop du Dominica. Et on s'est dit, vas-y, go, on va lui proposer de faire un morceau. Donc ça s'est fait un peu de manière, juste parce que j'ai composé une ligne mélodique où Et ce n'est, j'ai peur de devenir fou. C'est vrai, je me dis, je me suis, quand je l'ai chanté, je me suis dit, putain, mais Dominique, c'est clair.
Il est en vous, là.
Avec Bastien, il pourrait trop chanter ça, quoi. Et du coup, on lui a fait écouter, il est venu. Et puis, en fait, après, les arrangements ont complètement changé. On est parti, Bastien est parti sur quelque chose de plus électronique, ouais, parce que l'album prenait cette direction. Et du coup, le morceau était un peu en décalage.
Donc c'était plus du Dominica, voilà. Mais là c'était trop tard pour lui dire, ouais, c'est plus du Dominica.
Ouais, c'est ça. Mais il a préféré la nouvelle version, comme nous.
Il faut voir le clip en ligne, ne serait-ce que pour voir aussi ces deux personnalités qui chantent ensemble. Et puis il y a toujours ce travail, enfin, ce que j'adore chez Dominica, c'est sa façon de se mouvoir, sa gestuelle aussi, qui donne un côté très très poétique au titre, Fred.
Enfin, Isia Higelin, Dominica sur le même titre, là il y a le blockbuster pour la playlist de France Inter.
Voilà, c'est sûr. Justement, ils nous on dit c'est trop, si on le passe ça explose, la radio explose. Du coup non.
Il manque plus que Vincent Delerme qui mime derrière.
Et,
voilà. Et,
on y est. Et comment ça s'est passé justement en collaboration avec Jeanne Hadet cette fois-ci, parce que Dominica, donc vous nous avez expliqué, la ligne était là pour Jeanne avec Chevaucher, là aussi qui donne très très envie de danser.
Ouais, bah, Jeanne c'est une amie, enfin quelqu'un que je connais depuis assez longtemps maintenant, et j'ai toujours eu envie de chanter avec elle parce que je me reconnais beaucoup en elle, dans sa liberté, dans sa spontanéité,
dans son énergie,
dans,
ouais,
son énergie, mmh, dans sa voix. On n'a pas la même voix évidemment, mais elle a, voilà, elle a un coffre. Ouais, j'aime à nous imaginer un peu dans le même esprit de femme. Donc j'avais vraiment, puis je sais que c'est quelqu'un que j'admire et que j'aime, donc j'avais vraiment envie qu'elle soit sur le disque. Et je trouvais que cette chanson nous collait bien à la peau de deux femmes qui chevauchent la nuit sur des chevaux, voilà, crus.
Débridés, voilà, voilà, sans obstacle.
C'est ça, rien nous arrête.
On va vous laisser vous lever, Isia, et pour nous montrer cet aspect complètement débridé, parce que vous allez nous offrir en live trop vite. Et en attendant, ça me permet quand même de faire aussi un peu entendre deux chansons que j'adore, qui forcément touchent quand on les écoute, c'est Dragon de métal notamment.
Tes mots, tes rires, tes gestes. Plus doux que n'importe quel soir. Ah, ah. M'enveloppe et me protège talisman contre moi. Ah, ah. Autour de mon
il y a Idole aussi. Co-écrite avec François De Vulder de Pion, on y reviendra, mais tout de suite en live dans trop la bande vite, originale, Isia Higelin pour Trop Vite.
Trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes roulent sur tes joues. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. T'as l'impression qu'on t'ignore. Quitter fête avant la fin, claquer la porte avec fracas, on ne s'inquiètera pas pour toi, tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite, le parfum qui t'enivre trop vite, passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, sans blague, sans blague, sans blague, sans blague, dis à quoi tu joues, tu vas abîmer ton cœur, à trop vivre plus fort que tout, hypersensible et sauvage,
tête comme dans une cage. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, tes émotions qui montent trop vite. Les sensations retombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, les sentiments classés sans suite. Le parfum qui t'enivre trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Hey, hey, t'as tellement besoin qu'on t'aime. Hey, 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 t'as tellement besoin qu'on t'aime. Tellement besoin qu'on t'aime. Hey, hey, t'as tellement besoin qu'on t'aime. T'as tellement besoin qu'on t'aime que t'oublies de t'aimer toi-même.
Extrait single de son nouvel album Citadelle et dire, Isia, que vous n'avez donc pas dormi.
Vous avez dormi 5 minutes ce week-end.
Donc qu'est-ce que c'est quand elle fait nuit de 8 heures? On veut vraiment savoir. On
alors vous
ne
voulez pas savoir.
Comme quoi dormir, c'est superflu.
Avec, c'est un vrai super titre électro. On a envie de danser, vraiment. Merci. On a envie de danser toute la nuit avec vous, quitte à ne pas dormir.
J'aurais préféré, du coup.
Avec un titre qui nous parle aussi de ces montagnes russes. C'est haut et c'est bas. Comment ça vous est venu, ce titre-là, trop vite?
Oh ben c'est assez autobiographique, hein. Ouais. Enfin autobiographique. Ouais, c'est j'avais un peu besoin de sortir ça, mais bizarrement aujourd'hui je suis plus vraiment comme ça. C'est un peu.
Ça a été vous.
C'était un titre de transition.
Ouais,
en fait.
Oui. Mm-hmm. Et puis c'est un genre de texte que j'avais jamais écrit avant.
Ouais.
Assez fleuve comme ça, très premier degré, très projeté comme ça, sans vraiment sans fioriture.
Ouais, vous dites dans les interviews que vous vous êtes senti un petit peu libéré d'une forme de poids en disant que bon bah quand on a pour paternel Jacques Higelin, qu'on a aussi pour référence des Bachung ou des mecs comme ça, tout d'un coup écrire sur une feuille blanche des textes, et ça colle une petite pression et que là il y avait une sorte de relâchement.
Ouais. Ouais mais en fait surtout quand j'ai commencé avec La Vague, donc j'ai commencé à écrire mon album il y a 6 ans en français. Ouais. Le français était beaucoup moins
mélodieux.
J'ai raté un mot. Genre, voilà, forcément, ça devait arriver. Ça pouvait
pas
être si fluide.
C'est pas grave. Vous êtes le français était beaucoup moins
démocratisé.
Vous bloquez ces paroles. Petit clin d'œil à celui qui nous ment.
C'était pas aussi démocratisé dans la musique actuelle. Ouais. En fait, les groupes chantaient vachement moins en français. Dans la pop, l'anglais était beaucoup plus courant. Et donc, c'est vrai que les références absolues, voilà, c'était plus de la poésie. Mm-hmm. Même s'il y a eu des rockers qui chantaient en français, Noir Désir et tout ça, c'était quand même de la poésie rock. Donc, c'était des textes moins bruts, moins accessibles. Et donc, c'est vrai que là, c'est vachement démocratisé et tout ça. Donc, ça m'a aussi, moi, aidé à me libérer de cette espèce de pression, ouais. De la poésie française absolument, quoi. Et du coup, d'avoir écrit trop vite, ça m'a libérée. Puis après, Sous les pavés, c'est le dernier texte que j'ai écrit, où je dis, il y a tout qui part en couille. Pour moi, de dire, y a... ouais, voilà. Le sable, le ciment.
Ouais, il y a quelque chose de très direct aussi.
Ouais, dans les textes. Et c'est vrai que pour moi, dire, il y a tout qui part en couille dans un texte, c'était complètement inenvisageable.
Il y a quelques années.
Mais il y a encore 2 ans, ouais, ben voilà. Et c'est le dernier texte que j'ai écrit, c'est celui dans lequel je me suis permis le plus de liberté. Ça présage plein de choses pour la suite. Ouais. Je me sens vraiment libérée de quelque chose, c'est clair.
Est-ce que ça manque pas un peu de poésie?
Il y a des textes plus poétiques sur le disque, oui, mais il y a des deux, c'est bien.
Allez, je résiste pas juste à faire écouter un extrait, moi, de Sentier que j'adore.
Aiguiser
C'est un titre, alors, pour moi, qui est hyper important parce qu'il arrive en 10e position dans l'album. Au-dessus, il y a quand même un petit clin d'œil, forcément. Oh, Ali Dari.
T'as vu comme ça a changé tout d'un coup. Comme la lumière est tombée, faut pas rester là. Faut vous casser.
On reconnaît la voix de Jacques Higelin. Et dans ce sentier, on a celle d'Arthur, d'Arthur H.
Des fleurs.
Ouais. C'était important ça aussi.
Et
aux
percussions, c'est Dominique Mahu qui accompagne mon père aux percussions depuis une trentaine, quarantaine d'années. Et au cuivre, c'est le trio Journal Intime qui a accompagné mon père sur sa dernière tournée.
Ouais. Voilà. Il est quand même très présent. La famille est présente aussi pas mal sur cet album. Quand je pense à Dragon de Métal, moi qui m'émeut beaucoup, à Idole aussi, pardon. Il y a quelqu'un qui vous a fait
appeler. Oui, c'est Augustin Trappin.
C'est Augustin qui fait des petits passages.
Il fait l'hélicoptère avec. Enfin bon, ouais.
Non. Il fait voilà.
Vous êtes victime d'une hallucination.
Pardon. Oui, c'est ça.
Augustin Trappin n'existe pas.
On a vu une météorite passer. Et c'était Augustin. Ouais.
Non, pardon, parce qu'on est. Bref. Et oui, donc il y a quand même plein de petits, clins d'œil dans l'album, évidemment. Plus que des clins d'œil, c'est des petits indices, des petits messages.
Voilà. Ouais, qui sont envoyés et qu'on cherche ou qu'on cherche pas ou qu'on découvre au fur et à mesure de l'écoute.
On va continuer en musique avec la bande originale de votre vie, enfin certaines dates de votre vie. Izzy Aigelin, on commence en 1990. Oui. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Et c'est l'année de votre naissance.
Ouais.
Pourquoi Nirvana? Qu'est-ce qui vous a inspiré là?
Bah non, mais on m'a demandé de choisir un truc dans les années 90. Ouais. Le premier truc qui me pop à l'esprit, c'est vraiment Nirvana. Donc, bon, évidemment, j'écoutais pas Nirvana à 6 mois.
Non, vous écoutiez To Be Free à 5 ans.
Oui, mais pas à 6 mois non plus.
C'est pas le même esprit. Hein.
Non, c'est vrai. Mais il faut de tout pour faire un monde. Et non, voilà, pour moi, c'est vraiment le groupe mythique des années 90 que j'ai découvert à mon adolescence. Donc, quand je devais avoir 12-13 ans, à part des compiles qu'on se refilait un peu comme ça à la récré. Et comme tout le monde, mais c'est drôle parce que Nirvana, à n'importe quelle époque, même quand on a été là, quand ils étaient là ou après, c'est un groupe vraiment formateur, très important pour grandir, quoi.
On connaît votre année de naissance, on connaît aussi votre date de naissance via une chanson où on accueille sa petite gonzesse, sa petite nana qui vient de débarquer sur Terre, qui a aussi un clin d'œil à Jacques Higelin, dans le titre « Ce qui doit être fait ». Si on parle de votre enfance et de votre lien justement avec votre père, vous racontez que c'est en vous mettant au piano très très jeune, à ses côtés, que vous avez commencé à chanter.
Oui. Mais même avant, j'ai retrouvé à plein de mini cassettes parce que mon père il enregistrait absolument tout, il triait tout dans des trucs. Enfin bon, bref, ça c'était son truc. Et il m'enregistrait toute petite en train de parler à plein de petites cassettes avec des dates et mon prénom et tout.
Et vous chantiez déjà?
Je chantais, ouais. J'ai des balbutiements à un an et demi où je fais machin et tout. Et il a tout enregistré.
Vous chantiez dans une langue inventée, je crois.
Ouais, c'était ça.
Il disait faux
italien. Italien, ouais. Ça, c'était plutôt un peu plus tard, vers 4 ans, 5 ans. Je faisais des ribola vlugri. Enfin, je disais n'importe quoi. Et j'étais persuadée de chanter en italien, quoi.
Mais Ariel Dombal aussi.
Oui, que, voilà, c'est ça. Et mon père m'accompagnait au piano, très inspiré.
Il a quand même composé un titre merveilleux pour vous, Izia Balade. Pour Izia.
D'où viens-tu, ô ma tendre merveille, mon amour absolu, bercé par le flot des sortilèges et des rêves étoilés, sous le grand manège en chant.
Voilà, pour la balade, pour Rizia. Vous avez appris aussi à jouer d'un instrument de musique petite, mais je crois que ça n'a pas été complètement une réussite, l'enseignement du piano.
Non, mais j'ai pris des cours déjà.
Ça, c'était évocateur.
Complètement désespéré. On la récupère, les garçons.
Jolie analyse.
Je suis désolée, ça y est.
Rizia, on est en train de la perdre.
Je reviens un petit café, là, d'ailleurs. Voilà. S'il y a un
double.
Un triple. Non, mais c'était non, parce que je recommence. Quand vous avez posé cette question, j'ai eu la phrase de ma mère. Tu me remercieras plus tard. Qui est arrivé dans ma tête.
Et je me fais penser à votre mère, donc
non,
c'est
non, mais parce que les cours de piano, les cours de guitare, putain, et franchement, je m'en veux, et c'est clair.
C'est vrai.
Ma mère me disait, tu me remercieras plus tard de te faire des cours et tout. Moi, je dis, putain, ça me fait trop chier. Et en fait, c'est vrai que là, je m'en veux parce que j'ai été assez autodidacte et quand j'étais petite, je persévère à mort, surtout la guitare et tout. Et puis ces derniers temps, j'ai un peu lâché, pas le piano, mais plus la guitare et tout, et j'ai un peu lâché le truc, et je m'en veux parce que j'ai pas le niveau
nécessaire. Ça se
récupère. Oui, ça se récupère.
Trop tard.
Ouais, non, il est pas trop tard, mais bon. J'aurais pu être une virtuose de la musique, quoi.
C'est ça, faut écouter maman, quoi. Ça, c'est la
conclusion.
Faut
écouter votre mère, voilà.
Vous y mettrez avec votre petit.
Oui, voilà,
c'est sympa. On passe à 2004-2006. News avec Hysteria.
Et on vous retrouve, Isia, sur scène pour, je crois, la toute première fois, c'était à Calvi. Votre père raconte ça dans des interviews en disant qu'il avait mais complètement peur de vous voir sur scène et de se dire qu'est-ce qui va se passer. Et puis tout d'un coup, dès s'exclamer, c'est ma fille. Enfin, vraiment très heureux et très fier.
Bah oui, il était... il est très fier de moi. Il l'a toujours été. Oui, et puis mes premiers concerts, c'est vrai qu'il était... Il était mort de trouille, mais comme pour quand ta fille elle passe un examen, quoi, ouais. Comme quand tes enfants ils vont faire un truc important pour eux, quoi. Mais c'est vrai qu'il était content. Hein.
C'était pas le genre à vous dissuader. On a plein d'artistes qui viennent dans cette émission et qui nous disent que leurs propres parents étant eux-mêmes artistes, le premier conseil c'était de dire fais autre chose, ou en tout cas assure tes arrières, fais si tu as envie d'essayer, mais en parallèle attrape des diplômes, fais des choses, quoi.
Non, franchement ça aurait été malvenu de sa part.
Il était pas crédible de dire
ça. Il
y en a plein qui sont pas crédibles et qui le disent pourtant.
Non, il m'a clairement pas dit ça. Je pense que il était très content que je suive cette voie et il était forcément un peu inquiet pour moi, oui. mais j'ai été bien entourée. Il m'a mis entre les mains de personnes de confiance et moi, j'ai tracé ma route. J'ai commencé vraiment à partir dans un petit. J'avais 15 ans, je suis partie en Kangoo, on était 5 avec.
Déjà le goût du luxe, hein.
L'opulence.
Déjà, on la connaît plus.
La folie des grandeurs. Ouais.
Et j'étais avec mon petit groupe et on jouait sous des chapiteaux à 15h et puis il y avait 10 personnes sous le pas chapiteau, puis 20, puis 30, puis 40, puis après le chapiteau, il y avait du monde jusque derrière.
Qu'on apprend de ces années-là? Parce que tout le monde n'est pas passé par ce circuit-là. Qu'est-ce qu'on apprend dans le contact avec le public, je sais pas, sur la scène.
Mais c'était extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'ai eu énormément de chance de commencer comme j'ai commencé. Ouais. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir des gens qui me suivent aussi fidèles et aussi aimants et bienveillants avec qui j'ai un contact si beau. C'est que les gens vraiment, je suis vraiment allée les chercher depuis que j'ai 15 ans. Dans tous les bleds de toute la France, avec mon petit Kangoo, puis après mon petit van 9 places, puis après mon tourbus, et voilà, passer les étapes comme ça. Moi, j'ai toujours pas joué au Zénith parce que c'était pas encore le moment. Et puis j'espère que ce sera bientôt et tout ça. Mais j'ai vraiment, même si j'ai commencé fort et j'ai quand même, je suis allée vraiment chercher les gens et j'ai monté le truc progressivement, les victoires. Que j'ai eu pour mon premier album, on passait pas à la radio, on a vendu presque 100 000 albums.
Ouais, ce qui est énorme.
d'un album de rock pour une niche. Ouais, ouais. C'était et tout ça en allant simplement chercher les gens à l'ancienne. Et je suis très fière de ça.
Vous avez retrouvé cette sensation, c'était au mois de septembre dernier à la Maroquinerie.
Ouais.
Ça faisait un moment que vous n'étiez pas monté sur scène.
Ça faisait ouais. 4 ans. Ouais. 4 ans, non, ça faisait 3 ans et demi. Ouais, enfin bref, pas 4 ans, pardon.
Et ça remonte à quelques années, ouais, c'est ça.
Ouais.
Et là, on va vous retrouver sur scène, justement, dès le 9 novembre à Saint-Lô.
Le 8 à La Rochelle, on commence là-bas après la résidence, ouais.
Et il y aura Bordeaux, Toulouse, Nancy, Strasbourg sur votre chemin. Et puis aussi La Cigale, le 11 décembre. C'est pas le Zénith, mais La Cigale, c'est mythique. C'est génial, La Cigale.
Ah ouais, ouais, c'est complet.
Et c'est complet, ouais, ah ouais, c'est
trop cool.
Ouais, donc là, on vous suit vraiment sur toutes les dates.
Ben ouais, et puis surtout, ça a été complet même avant que l'album sorte. Donc c'est vraiment des gens qui ont hyper envie de venir voir le live. Moi, ça me touche tellement. Ouais. Enfin, je suis tellement émue. Et quand j'ai retrouvé les gens sur scène à la Maroquinerie, c'était tellement beau. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que les gens qui me suivent, ils sont trop beaux, quoi. Vraiment, on a un super beau lien. C'est très émouvant. Voilà.
On passe à 2013. Are You Man, Arctic Monkeys.
On a une bande originale très rock. Hein.
Bah oui.
Ça change, c'est bien.
Bah oui, avant c'était Muse, mais parce que Muse c'est toute mon adolescence. Ouais. Et puis ouais, les Arctic Monkeys aussi. Mais oui, mais j'écoute beaucoup de rock. Écouté beaucoup de rock.
Non, mais c'était pas une critique, au contraire.
Non, mais je veux dire les. Après, j'écoute plein d'autres choses. Il y a plein de trucs qui ont marqué ma culture musicale, mais c'est vrai que les truc un peu qui me bouleverse, c'est quand même plus là-dedans.
On parle souvent des voix noires américaines. Ça aussi, ça fait partie de votre bande sonore.
Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais.
On notait une parenté dans votre puissance vocale ou dans votre façon tout d'un coup de sortir des sons en se disant ça vient de nulle part, quoi, tellement c'est puissant.
Ouais, mais c'est sûr qu'en anglais, j'avais cette tendance-là aussi beaucoup à propulser des choses et tout. Mais depuis que je suis passée au français, j'ai quand même, et puis surtout sur ce dernier album, j'ai l'impression d'être allée chercher des sonorités et des intentions plus subtiles en fait, et plus profondes, plus à l'intérieur de moi. J'ai travaillé ma voix aussi, justement après mon accouchement, parce qu'il fallait aussi que je remette des trucs en place.
C'est vrai, c'est ça
physique.
Change.
Bah ouais, carrément. Puis à 7 mois de grossesse, je pouvais plus chanter, quoi.
Donc,
quand on est chanteuse après un accouchement, on est obligé de retravailler.
Bah oui, ouais. Évidemment, parce que
ça a l'air évident pour vous, mais pour nous pas du tout.
Bah si, parce que moi je travaille avec ça, c'est mon corps, c'est mon instrument, et il faut un peu tout retravailler.
On a moins de souffle ou pas quand on est enceinte?
Ah bah oui, oui. Bah oui, je vous le confirme.
Tu respires pour deux. Oui, on n'a
pas trop de souffle, et puis j'avais la voix un peu comprimée. Enfin, j'avais une voix, mais c'était pas vraiment ma voix. Il manquait pas mal de résonateurs, quoi. Et donc ouais, après j'ai pas mal travaillé avec ma prof de chant qui s'appelle Martina Catella, que j'embrasse parce que elle a été vraiment géniale.
Ça aurait été très perturbant tout d'un coup de se retrouver sans son instrument et se dire qu'il nous a peut-être échappé, qu'il faut rebosser et que ça peut ne pas aboutir forcément au même résultat.
Moi ça m'a pas vraiment, ça m'a plus excité qu'effrayé en fait, parce que tout à coup je devais un peu repartir de, pas de zéro évidemment, mais recommencer, retrouver mes repères et tout, c'était assez excitant. Ouais.
Et pour revenir à 2013, c'est l'année où vous remportez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle, on en a parlé tout à l'heure, de Mauvaise fille de Patrick Mille. Parce que ce qu'on ignore, c'est que les cours de comédie, vous en prenez depuis que vous êtes jeune fille, en fait. C'est pas juste, tout d'un coup, ah, elle s'est dit, elle chante, et elle s'est dit, tiens, si je faisais du cinéma, c'est vraiment, c'est
pas possible. Oui, alors j'étais pas au conservatoire, hein. J'étais dans des cours de théâtre de quartier, où j'allais le mercredi après-midi.
Mais c'était déjà un désir à l'époque.
Oui, carrément. Ah non, mais c'était un énorme désir. Moi, j'ai toujours adoré improviser. Et depuis que je suis montée sur scène, donc vers 15 ans que j'ai démarré les tournées, j'ai toujours, moi ça me vient de mon père et puis de mon tempérament, mais moi j'ai vu mon père faire ça sur scène, et ça m'a inspirée, parler aux gens, haranguer la foule, inventer des histoires, voilà.
Ouais, il y avait un drôle d'exemple quand on a un père comme ça qui invente tout le temps de se retrouver comme ça sur scène justement.
Bah ouais, mais bon, c'est vraiment la bonne école. Alors après, j'en ai peut-être un peu abusé, mais comme lui au début, aujourd'hui, j'arrive à mieux répartir mon temps sur scène et à moins peut-être me disperser. Mais bon, c'est grandir aussi.
Et sur scène, on aura l'occasion de vous entendre avec ce nouvel album Citadelle et le titre Dragon de métal qu'on va écouter ensemble aujourd'hui.
Dragon de métal, ensemble maître du temps. sauveur de l'ennui. Je te regarde, tu me comprends. Tes mots, tes rires, tes gestes, plus doux que n'importe quel soir. Ah, ah. M'enveloppe et me protège, talisman contre moi. Ah, ah.
Dragon de métal, un très beau titre sur l'album Citadel d'Izia, qui est notre invité dans la bande originale, qui vient aussi nous parler de Debout sur la montagne, double actu pour Izia Higelin, qui est pas prête de se reposer, qui sort mercredi prochain, un film onirique. Et voilà, je vous recommande vraiment l'album, et puis il y a toutes les dates sur le site de France Inter pour aller applaudir Izia sur scène.
Et vous pourrez aussi applaudir Tanguy Pastureau qui est rentré dans ce studio. Ah. Tanguy, je suis très surpris, mais vous déclarez que vous n'aimez pas trop la corrida.
Non, et pas par amour des taureaux, hein, comme on pourrait le penser. Le taureau est un animal avec qui on partage peu de choses. J'ai passé des années à jeter la balle à des taureaux, aucune réaction. Non, c'est parce que quand je vois du sang, je m'évanouis. C'est pour ça que je préfère que dans les pubs pour les serviettes hygiéniques, le liquide de démonstration reste bleu.
D'accord, on voit tout ça dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Retour de la bande originale des vacances. Les vacances et son habit. Mais nous avons avec nous autour de la table Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy, on retrouve dans quelques instants. Et bien sûr, à mes côtés, Leïla Kadour Boulali.
Salut à tous, Daniel Morin. Et notre invité, mademoiselle Izia Higelin. Oh. Izia qui pète le feu depuis qu'elle est autour de ce micro à France Inter. On rappelle qu'Izia n'a pas dormi même une seule seconde cette nuit, donc on la tient à coup de café.
De Guronzan,
il y a Fred et puis il y a Tom qui l'encadre comme ça et qui la secoue pour être sûr. Ouais. Non mais tout va très très bien, Izia.
Même Augustin Trappenard s'en est mêlé, il veut faire coucou. C'est un travail d'équipe.
C'est la première fois qu'on vous accueille dans cette émission en plus, on s'en souviendra cette première. En même temps, vous avez plein de raisons, plein certaines circonstances atténuantes, puisque vous avez une actu de folie. Vous sortez au cinéma Debout sur la montagne, un film de Sébastien Metbédé, la semaine prochaine, aux côtés de William Lebguil, de Bastien Bouillon. Il y a aussi Jérémy El Kaïm, il y a Esteban, il y a tout un casting hyper sympa, aussi d'une jeune génération qu'on découvre et qu'on a envie de voir dans d'autres films. Et puis vous avez aussi un album Isia Citadel, avec ce jaune comme ça qui recouvre l'album, solaire, qui fait référence à votre prénom, et puis qui alterne dans les thématiques, je trouve, tout ce qui nous concerne dans la vie, dans l'amour aussi, dans la mort également, dans la disparition, avec des titres magnifiques, dont ce single Trop vite que vous nous avez chanté tout à l'heure. Il y a aussi ce titre que j'aime beaucoup, c'est Idole. Majoritairement, tous les titres, à quelques exceptions, vous les avez écrits toutes seules. Là, vous avez fait appel à François Delvider de Pion pour co-écrire en partie ce texte-là. Mais tous les textes, voilà, vous appartiennent.
Ouais, en fait, François, c'est un ami. Et à un moment, j'avais un premier couplet pour Idole et je pêchais un peu. Et en fait, c'est lui qui est arrivé avec un texte qui s'appelait Idole, qui n'était pas du tout celui-là, mais il y avait juste Idole. Voilà, c'était juste Idole. Et donc, j'ai juste gardé son mot Idole, mais c'est pas juste, parce que c'est énorme le titre d'une chanson. Et voilà, et puis j'ai construit ma chanson.
Et vous vous êtes retrouvés autour de ce très beau titre, oui.
Puisqu'on parle d'Idole, tenez, je vous en présente une, c'est Tanguy Pastureau. Tout de suite, parce que c'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Tanguy, de plus en plus, vous détestez les stars.
Oui, je ne supporte plus les gens connus, ce qui fait que je vous aime, Daniel. Non, alors justement, je vais vous dire, la seule star que j'apprécie, c'est Isia. Parce qu'elle est tellement solaire que j'étais à deux doigts ce midi de venir avec des Ray-Ban. Rien qu'avec son regard, elle peut cuire des merguez. Je sais, je suis nul en compliments, c'est pour ça que je suis toujours vierge. Et si je n'aime pas les stars, c'est parce qu'elles passent leur vie à faire la leçon à tout le monde. Manger pas de viande, adopter un migrant, voter Benoît Hamon, on n'en peut plus de les entendre. Moi, quand en 2007, Yannick Noah a annoncé qu'il quittait la France si Sarko était élu, ça m'a donné envie de voter à droite. Et je fais cette confession ici, à France Inter, ce qui revient à crier « fuck la PMA » en pleine conférence de rédac du magazine Têtu. J'en peux plus d'entendre des trucs comme « il faut sauver les bonobos ». Non, il faut les trucider un par un, ces enfoirés. Car ces bêtes ont une vie sexuelle 100 fois plus épanouie que la nôtre. Pour dire bonjour, ils font l'amour. Pour dire au revoir, ils font l'amour. Pour dire passe-moi le sel, la blanquette est un peu fade, ils font l'amour. Et aussi pour se réconcilier, si Pascal Praud était un bonobo. Non. À la fin de son émission où tout le monde s'engueule, il le sortirait son pubis blanchâtre. Oh. Avant d'hurler, alors, qui c'est qui veut goûter à Vincent Bolloré? Dans le groupe Canal, tout le monde doit appeler ainsi son pénis, c'est dans le contrat. L'an dernier, j'étais sur C8, j'appelais le mien Vincent Bolloré. Maintenant, je suis libre, donc je l'appelle Jacques Vendroux, en espérant retrouver un peu de vigueur. Non. Bref, quand Nathalie Baye appelle à préserver les bonobos, j'ai envie de répondre, tu sais quoi, Nat? Non, ne serait-ce que par jalousie. Et souvent, on pense que les stars sont progressistes. Ben non, ce sont des petits bourgeois coinsos. Malgré leur engagement le jour de la révolution, elles seront planquées dans leur F12. À part Béatrice Dalle qui peut survivre 30 jours avec juste une canette de Heineken. Le public évolue plus vite sur les questions de société que les vedettes. Par exemple, prenez la corrida. Ce spectacle atroce où un acupuncteur qui n'a pas de limite s'acharne sur un taureau. La corrida, 73% des Français sont contre. Normal, on est en 2019, notre rapport aux animaux a évolué. Et en même temps, on dit ça, mais nous n'avons toujours pas un seul animal dans l'équipe. Hein, puisque Daniel, la radio a refusé de vous compter en tant que bison, malgré une hygiène de vie similaire.
Pourtant, j'ai des efforts.
Et là, vendredi, des stars ont signé un appel appelant à ne pas interdire la corrida aux mineurs, parce qu'il y a un projet de loi dans ce sens. Ce qui est logique, les enfants ont une existence déjà tellement remplie. Finir la collection des Hatchimals, rattraper la 7e saison de Sam le Pompier sur YouTube Kids. Mmh. Un enfant, vous lui proposez d'assister à une corrida, il vous répond « Pardon, papa, mais là, je suis en ligne avec Plaido, ensuite, je dois encore jouer avec mon zizi. » Mais non, ces personnalités râlent. La corrida est un art, disent-elles. Et l'art, personne ne doit en être exclu. Il cite Oscar Wilde qui a dit « La beauté est dans l'œil de celui qui la regarde ». Seulement, Oscar Wilde a dit un grand nombre de conneries.
conneries. Hein. On l'a pris au sérieux parce qu'il avait un petit look, comme a dit le Rami aujourd'hui, mais c'est juste un mannequin couple qui a gratté 2-3 aphorismes.
Alors, qui sont ces 40 personnalités, Tanguy, qui sont pro-Corriga?
Alors, il y a d'abord Pierre Arditi, notre invité de vendredi. Oui. Je l'ai su trop tard, hein, qu'il avait signé cet appel à la con, sinon je l'aurais éclaté. J'aurais brandi devant lui une croix de Lorraine. Hein. Pour les gens de gauche, c'est l'équivalent des crucifix pour les vampires. Il aurait explosé en criant « À moi, Léon Blum !» Il y a aussi Jean Reno, Charles Berling, Denis Podalydès, que des comédiens que j'ai admirés et à qui je souhaite aujourd'hui de se prendre un coup de corne dans le cul. Plus jamais je n'irai voir un film avec Jean Reno. En ça, je suis constant puisque je ne suis jamais allé en voir. Enfin si, en 88, j'ai vu Le Grand Bleu, mais je n'avais Dieu que pour Jean-Marc Barr. Je me cherchais un peu à l'époque. Je rassurais mes amis en leur disant « Oui, mais j'ai aussi bien fantasmé sur le dauphin. » Et en fait, ça ne les rassurait pas. Hein. Ont aussi signé pour la corrida Françoise Nyssen, la ministre de la Culture qui a bossé 4 jours et qu'il a fallu exfiltrer parce qu'elle avait fait des travaux illégaux dans sa maison d'édition. Elle vous refait tout Paris à la fin. Il n'y a pas une facture. Hein, c'est le mélange de Valérie Damidot et Gérard Majax. Et le journaliste Laurent Veil, hein, ce monsieur qui à Cannes est en bas des marches, comme les Roms dans le métro à Paris, et qui demande à Brad Pitt s'il est content d'être là. Comme si l'autre allait répondre « Bah non, hein, il fait beau, je fais des films, j'ai du blé. Là, j'ai réservé la moitié du Martinez. Ce soir, avec un pote, on a prévu de faire un tennis dans la chambre. Je me sens un peu brisé. En plus, j'ai lu l'appel des 40 personnalités, là. C'est n'importe quoi. Il parle de moralisation, la même qui fit condamner Flaubert pour la légèreté de Madame Bovary. Enfin, je comprends qu'ils ont fait construire une villa dans le sud et qu'ils veulent faire plaisir aux gens, mais comparer Flaubert au Toréador, c'est comme faire analyser l'album de Slimane et Vita par un spécialiste de la musique baroque. Hein, ils ajoutent, cette même moralisation a fait condamner Oscar Wilde, encore lui, pour homosexualité. Je ne vois pas le rapport. Et ils disent aussi, qu'avant eux, hein, Cocteau, Picasso, Hemingway aimaient la corrida et aussi Francis Bacon. Mais ça, en s'appelant Bacon, on se doute que le type allait pas être à la pointe de la lutte pour le bien-être animal. Hein. Bref, fini Cocteau, Picasso, Bacon. Ceux qui ont pris la suite, c'est Jean Reno, Laurent Veil et la mère Nyssen. Ça prouve une chose, que la corrida, ça y est, dans les faits, c'est déjà mort.
Tanguy Pastion. La bande originale.
Et on se retrouve, Tanguy, le 14 décembre à Clermont-Ferrand. J'espère que...
Il n'y a pas de corrida là-bas.
Voilà, c'est ça, il n'y a pas de corrida là-bas.
Jean Reno qui t'attend.
Je ne savais pas qu'il y avait eu ça.
Qu'il y avait autant de... C'est de quoi coup. Votre position, vous, Isia, sur la corrida, forcément?
Bah, évidemment, vous voyez bien. Mais non, mais contre, je trouve ça complètement fou quand que ça existe en 2019.
Ça fasse débat, en tout cas.
Et encore, que ça fasse encore débat, qu'on puisse être encore pour la corrida, je trouve ça complètement...
J'aime bien, c'est Françoise Nyssen qui donne son avis, mais je crois que tout le monde s'en fout.
Oui, c'est ça. Je pensais pas qu'en 2019, Françoise Nyssen pouvait encore donner son avis.
Sauf qu'elle vit à Arles et que... Voilà.
Ah oui, voilà.
C'est la deuxième interro de cette émission. Cette fois-ci, Isia, vous pouvez jouer, puisque les questions ne vous concernent pas directement, elles concernent un petit peu ce qui nous environne dans la société. Qui a été liké plus de 8 millions de fois en un jour pour sa première photo.
Jennifer Aniston.
Bravo, oui. Photo
avec
Instagram.
Les acteurs de Friends.
Voilà, attention les gars, il va falloir vous y mettre parce qu'elle
réveille. Alors, elle ne dort pas, mais quand elle se réveille. Ouais.
Elle a en effet inauguré son compte Instagram mardi avec un selfie Friends. Elle n'est pas toute seule hein, sur la photo, mais en moins de 24 heures, je crois, plus de 8 millions. Et ça continue encore de liker la photo. Vous vous servez beaucoup des réseaux sociaux. Je vois que vous avez un Instagram. Est-ce que vous... Ça fait partie de la stratégie ou c'est vraiment un outil individuel perso?
Oh, non, moi j'aime bien de temps en temps, mais pas trop. Enfin, pas trop le week-end par exemple. Mais quand j'ai des trucs à dire qui concernent, voilà, quand j'ai envie de remercier les gens, dire un peu ce que je fais, mais pas trop perso non plus.
Ouais, vous n'êtes pas une addict non plus des réseaux sociaux. C'est-à-dire
un petit peu quand même.
Ouais, vous passez beaucoup de temps.
Là, dans ma nuit d'insomnie, j'ai énormément scrollé par exemple, ce qui est extrêmement pénible, ce qui me gâche la vie.
Ouais, alors scroller, on explique pour les auditeurs d'Inter. C'est genre on passe en revue, on descend,
passer son doigt
comme
de haut en bas sur son iPhone.
Et on se muscle dans le puits des réseaux sociaux.
On se muscle un doigt.
Alors maintenant, si tu veux expliquer aux auditeurs de France Inter, faut revenir sur l'origine des réseaux sociaux. Ouais, alors,
voilà, non, ça on parle de scroller l'été.
Je vais s'en occuper, mais c'est vrai que c'est assez perturbant de voir. Je sais pas si vous avez comme moi sur votre téléphone l'appli qui vous indique combien de temps vous avez passé par semaine, en moyenne par jour sur les réseaux sociaux.
Ah non, moi par contre, je suis dans le déni.
Ah voilà, voilà.
Voilà quelqu'un d'honnête.
C'est une prise de conscience qui fait quand même un peu mal quand on se rend compte qu'on peut passer plus d'une heure. Et encore, je suis pas trop mal placée sur une heure.
Ah, une heure, vous êtes sympa.
Ouais, mais bon, jour, c'est rien.
Oui, mais c'est beaucoup une heure au final, si tu veux te dire que tu veux lire quelque chose.
Surtout quand tu dois aller chercher tes enfants, tout ça.
Ah oui, alors ça, j'ai l'avantage de pas avoir ce problème. Allez, on continue. Il y a un livre pour enfants qui va paraître début 2020. Son nom, Leur République, expliqué s'adresser aux jeunes et aux moins jeunes. Ah oui, qui va être l'auteur de ce texte et de ce livre?
Ah oui, je sais, c'est l'humoriste là, qui a fait 5 ans en France. François Hollande.
Oh, bonne réponse de Tanguy Pastureau, il ne peut pas s'en empêcher.
J'étais parti sur un humoriste. Ah,
oui. C'est l'ancien président, François Hollande, un peu de respect s'il te plaît Tanguy, qui va donc signer ce livre consacré à la République aux éditions Glénat.
Ouais. Papa Pingouin.
Alors, ça je peux se dire aussi, vous vous débrouillerez. Qu'est-ce que Isia, vous êtes jeune maman, comment est-ce que vous vous projetez justement dans ce rôle-là de mère, d'éducatrice? Parce que dans la chanson Dragon de métal, vous dites un truc hyper beau quand vous parlez de votre père, c'est qu'il vous a appris un truc fondamental, c'est la liberté, qui vous a doté du plus beau des cadeaux. Comment est-ce que vous appréhendez ça avec maintenant votre propre enfant?
Oh ben je l'appréhende pas trop, je le vis au jour le jour. Je pense que en fonction de voilà, ton enfant grandit, tu grandis avec lui. Mon père, il disait ça, il disait j'élève pas Isia, je m'élève avec elle. Et je trouvais ça très beau et j'entreprends un peu le même chemin avec mon fils. Voilà, pour l'instant c'est un petit gars de bientôt 1 an et demi, voilà. Et puis j'apprendrai à être sa mère au fur et à mesure qu'il grandira, ouais. Donc on verra plus tard.
On verra plus tard. On continue. Écoutez cette citation, c'est un peu bitchy bitchy. Dieu sait ce qui se passait dans sa tête et Dieu sait de quel médicament il était bourré, mais à chaque fois que je l'ai vu, je me suis dit que ce pauvre garçon avait totalement perdu la boule. De qui parle Elton John dans sa bio qui vient de sortir?
Augustin Trapenard.
David Bowie.
Non, pas Bowie.
Mick Jagger.
C'est un peu cet acabit-là.
Freddie
Mercury.
Non.
Non, Michael Jackson.
Bravo, bravo Tanguy. Michael Jackson.
Il est fort Tanguy.
Est-ce qu'il y a des stars qui restent mythiques pour vous, Isia, que vous placez sur un piédestal en particulier?
Jennifer Aniston, par exemple. Non, mais je me rends compte que c'est ma seule réponse depuis le début. Et je suis un peu les free. Boules. Oui, c'est ça.
Non, mais il y en a qui n'ont pas répondu. Hein. Attends, ne vous inquiétez pas. Mais non, mais c'est pour la mettre à l'aise, elle dit la pauvre.
La
et c'est notre invitée, il faut la mettre à l'aise. Voilà.
Oui, tout d'abord.
Et voilà, elle est principale.
Et toc. Oui, bah, évidemment, il y a plein de gens que j'admire. Bowie, Mercury.
Ouais.
Mais toute cette personne-là, un peu plus tôt, enfin. Tous ces gens qui avaient quand même un putain de charisme. Voilà, qui étaient des vrais génies, des vrais créateurs, des bêtes de scène.
Camaro.
évidemment. Non, mais voilà, moi, j'ai vu pour la première fois, il y a pas longtemps, le film sur Queen, là, et ça m'a vraiment bouleversée.
Bohemian Rhapsody.
Ouais, ouais. Bohemian Rhapsody, et je me suis vraiment dit, putain, j'ai vraiment hâte de retrouver la scène et de... Bon, bien sûr, je fais pas Wembley, mais voilà, de saisir la scène comme faisaient ces gens-là. Putain, c'est beau, c'est la liberté encore.
Et on vous retrouve très très vite sur scène le 8 novembre à La Rochelle, le 9 à Saint-Lô, ensuite Bordeaux, Toulouse, Nancy, Strasbourg, Paris, La Cigale, le 11 décembre notamment, avec ce titre phare de l'album. Voilà, avec ce bel album Citadel que je vous invite à écouter.
On dit de lui aussi qu'il va beaucoup trop vite. Hein, Frédéric Sécos.
Ah, tu t'attends à ce que je contredise, mais non, c'est tellement vrai. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de voyage dans l'espace, parce que qu'y a-t-il de plus beau comme témoignage du génie humain que d'avoir inventé le missile et s'être dit un jour... Tiens, et si on montait dedans? Parce que c'est ça la fusée, hein, c'est un missile qu'on pointe vers le ciel. Hein. Et l'homme, il est comme ça, il est curieux. Je suis certain que l'inventeur de la catapulte, à un moment donné, s'est forcé. Il s'est demandé si ça ferait pas un bon moyen de transport. Mais si, Michel, arrête d'être comme ça. Fais confiance, on essaie une fois. Si ça marche pas, on recommence pas et c'est tout. Au pire, tu fermes les yeux et puis il y a de la paille là-bas. Allez, c'est que du fun que je te propose, Michel, ok? Poule! Enfoiré! Quelqu'un sait si Michel avait de la famille? L'être humain, il est comme ça, il a besoin de tester. Le premier être vivant qu'on a mis en orbite autour de la Terre, c'est une chienne, Laika, que les Russes ont envoyée dans l'espace le 3 novembre 1957. Vous vous rendez compte? On a envoyé un yinche dans l'espace. Je sais pas si vous avez des chiens chez vous autour de cette table, mais déjà quand tu laisses un chien tout seul chez lui toute une journée, il est au bout de sa vie. Et tu tires la queue d'un chien, il devient fou, il pense que c'est la queue d'un autre chien et il essaie de l'attraper en tournant sur lui-même. Donc comment tu veux qu'un chien, aussi gentil et fidèle soit-il, comprenne le concept même de voyage spatial? Laika, elle a dû faire la même tête que Christophe Castaner quand on lui a dit en quoi consistait le métier de ministre de l'Intérieur. La pauvre bête, évidemment, elle est morte 7 heures
heures après le lancement, de stress et de surchauffe. Mais chez les Russes, ça, c'est suffisant pour qualifier ça de succès.
Oui. Dimitri, c'est bon, elle a tenu 7 heures, c'est ton tour. Je suis super bien les accents russes. Ouais.
Vendredi dernier, le 18 octobre, pour la première fois en 50 ans de voyage spatial quand même, deux femmes ont pu faire une sortie dans l'espace sans homme. Alors un article sur lequel je suis tombé titrait « Deux femmes astronautes sortent seules dans l'espace ». Et là je me suis demandé, deux femmes ne sont plus seules à partir de combien de pénis? Non parce qu'elles étaient deux, oui. C'est qu'elles n'étaient pas seules. Oui. Et il aura fallu 50 ans pour ça. Alors que franchement dans l'espace on a pesanteur, à part gagner de la vitesse en faisant l'hélicoptère avec sa teub, je vois pas en quoi c'est mieux d'être un homme. Non, je me dis qu'elle est hallucinante cette époque, parce qu'au Turkménistan, le 18 octobre, t'avais peut-être un mec en train d'expliquer à sa femme qu'elle avait pas le droit de conduire, alors que des milliers de kilomètres au-dessus de sa tête, il y avait deux femmes en train de réparer une station orbitale. Et t'imagines le kiff pour ces deux femmes, enfin débarrassées du diktat du patriarcat. Houston, je contemple l'abysse infini qui s'étend devant moi, et je réalise en voyant notre petite planète bleue que nous ne sommes qu'un.
Pardon, on a votre mari au téléphone.
C'est-à-dire que là, je suis un peu occupé.
Il dit que ça sera pas long.
Bon, bah, passez-le moi. Allô? Attends, tu sais bien que je suis un peu dans l'espace, là. Excuse-moi de te déranger, ma chérie, je te promets, ça sera pas long. Mais dis voir, est-ce que tu sais où est le carnet de santé des enfants? Non, c'est pour la sortie scolaire, ils demandent ça à l'école et je sais pas du tout. T'as regardé dans l'étagère de l'entrée? Oui, j'ai pas trouvé. Bah, regarde encore. Oh, t'avais raison! Oh, le nigo, autant pour moi. Je te dérange pas plus, amuse-toi bien. Je disais donc, Houston, je contemple l'abysse infinie qui s'étend.
Excusez-nous, il y a le président Trump qui veut vous parler.
Oh, c'est pas vrai, passez-le-moi.
Hello, ladies! Sir President Trump, the best president of the United States of America! J'aime bien crier. Je voulais vous dire que les USA sont fiers de vous, même si vous êtes des gonzesses. Je disais à Poutine, si vous avez envoyé des chiens dans l'espace, nous, on peut bien envoyer des nanas.
C'est très drôle, monsieur le président.
Ah, je suis très drôle, funny guy. Ça va là-haut, deux femmes dans l'espace, vous vous êtes pas encore crêpé le chignon, hein? Je voulais vous poser une question.
Allez-y, monsieur le président.
Est-ce qu'on voit mon zizi de l'espace? Oh, parce que j'ai un très gros zizi, vous savez.
Le temps est nuageux, vous savez, monsieur le président.
Ah, j'ai une autre question. Est-ce que la Terre est plate?
Non, monsieur le président, elle est ronde.
Ah, fake news!
En attendant, à toutes les petites filles qui depuis des années entendent des hommes leur dire qu'elles ne peuvent pas conquérir les étoiles, eh ben ne les écoutez pas et allez là-haut. Et si ça sonne au téléphone, ne décrochez surtout pas.
La bande originale.
Frédéric Sigris, que vous retrouverez du 24 octobre au 2 novembre, c'est à partir de jeudi, c'est ça?
Oui, c'est ça.
À la basse-cour, à Grenoble. Humour et imitation.
Et on retrouve.
J'aimerais
aussi
ça comme épitaphe sur ma tombe.
Et on retrouve à l'affiche pour le film Debout sur la montagne, Izia Higelin, avec William Lebguil, Bastien Bouillon. On a évoqué rapidement André Wilms tout à l'heure qui fait une petite participation. Et puis, toujours cet album Citadelle, Izia. Et les concerts à partir du 8 novembre à La Rochelle. Et puis on vous retrouvera à La Cigale, bien entendu. Et en ce moment, je crois que vous tournez aussi. C'est ce qui explique aussi que la double actu, elle doit peser un peu lourd. Parce que vous êtes en tournage. Ouais.
Oui.
Sur un film. Vous nous racontez un peu le titre?
C'est un film de Samuel Teiss qui s'appelle Petite Nature. Il avait co-réalisé Party Girl avec Claire Burger et une troisième réalisatrice dont j'ai oublié le nom, pardon.
Oui, moi aussi, j'ai oublié.
Voilà. Ouais. Et nous tournons en ce moment. Ouais, on a Forback. Voilà.
Donc vous faites les allers-retours. Quand vous ne tournez pas, vous...
Bah surtout au mois de novembre, ça va être un peu sport.
Ouais.
Mais assez cool parce qu'on va aller, on tourne à Forback et mon dernier jour de tournage, je joue le soir à Nancy. Du coup, je tourne la journée et puis après, avec toute l'équipe, on va aller au concert. C'est à une heure de route. je vais jouer le soir. Donc non, mais en même temps, c'est hyper excitant.
Ouais.
Génial.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite?
Un peu de sommeil.
Ouais.
Une ou deux nuits.
Trouver la paix.
Tanguy, s'il fallait retenir quelque chose de cette émission, ce serait quoi pour vous?
Bah que moi, du coup, je suis crevé aussi là parce que c'est contagieux, ce genre de choses. Donc là, je vais aller dormir.
Ouais, Fred.
Qu'il faudra vraiment être là à Nancy pour voir Izia sur scène le soir, parce qu'il faut, et surtout filmer. Ça va être intéressant.
Tom.
Qu'elle a, il y a déjà une grande carrière malgré son jeune âge et qu'elle arrive toujours à se renouveler. Là, le nouvel album, il est incroyable.
Ouais. Oh,
merci.
Daniel.
10 ans de carrière, c'est plus un poulet de printemps, faut qu'elle aille se coucher maintenant. Hein, elle est jeune, 10 ans de carrière. Quand même. Lila, qu'est-ce que tu as
fait? Moi, spéciale dédicace pour cet album avec toutes ces. Voilà, tous ces titres, moi, qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. J'ai parlé beaucoup d'Esselé avec Dominica, parce que je trouve que ça vous va particulièrement bien,
beaucoup.
Cette association avec Jeanne Haddad aussi chevauchée, avec Sentier qui me rend un peu folle. Enfin, il n'y a pas un titre que je n'ai pas aimé, que tu saches, qui commence un peu en anglais, et puis on rattrape vite le français. Donc, on retrouve tout ce qu'on aime chez Isia. Voilà, donc
merci.
Bravo pour cet album. Il est temps, à présent, de vous présenter nos excuses, Isia.
De présenter des excuses à tout le monde, et notamment aux programmateurs musicaux de France Inter, qui, après avoir subi la semaine dernière l'hommage honteux de Leïla Camaro.
Oui, j'adore.
Ouais, n'empêche que ça pique. Eh ben, après ça, on a eu droit à... Eh oui, quel groupe. Ouais, je vais avoir du mal à m'en remettre personnellement. Désolé pour Augustin Trapenard qui, après avoir perturbé l'émission en venant saluer Isia, s'est fait à juste titre molesté par la sécurité de France Inter. Eh ouais mec, fallait pas venir nous emmerder, demain on déboule à 10 pour saccager ton boomerang. Et désolé pour la costumière du film Debout sur la montagne. Voilà, on a appris ce matin qu'Isia avait l'impression de passer son film à poil, c'est malin, depuis elle dort plus la pauvre. Désolé pour nos fidèles auditeurs, enfin fans de Réponse, et qui ce matin ont découvert le style Isia Higelin.
Non, mais bah ouais, enfin...
Oh. Ouais, c'est différent, mais moi je trouve que ça a son petit charme.
On va garder ce son, Isia.
Ah, mais ça s'appelle ma sonnerie de portable, si vous voulez.
C'est cadeau.
Merci, Isia, d'avoir été avec nous, d'avoir tenu le coup malgré cette nuit blanche. J'espère que
vous
avez passé
vous
un bon moment.
Ouais. Ah non, super,
on a
vraiment
réussi à vous réveiller,
merci,
à vous tenir en éveil.
Ah mais non, mais plus que ça, là je suis d'attaque pour ma journée.
Merci à toute la bande, on se retrouve demain.
Retour de la BO avec Reta Kateb et Vincent Cassel pour l'excellent film Hors Normes.
Et Reda,
à suivre, carnet de
c'est
campagne.
Reda, ouais, mais c'est
j'ai
pas
dit quoi
Reta.
Reta, mais c'est sa sœur qui viendra.
Je lui présenterai tes excuses demain.
Carnet de campagne à suivre avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.